Chapitre 2. St. Ogg's émet son jugement. On sut bientôt à St. Ogg's que Miss Tarleva était de retour. Elle ne s'était donc point évadée pour se marier avec M. Stephen Guest. En tout cas, M. Stephen Guest ne l'avait point épousée, ce qui revenait au même en ce qui concernait sa culpabilité. Nous jugeons autrui d'après les résultats connus. Comment pourrions-nous le faire autrement ? Si nous ne savons point par quelle marche ces résultats sont arrivés. Si Miss Tarleva, après quelques mois d'un voyage bien combiné, était revenue avec le titre de Madame Stephen Guest, avec une mise élégante, un trousseau fait après la noce, et tous les avantages que peut posséder la femme d'un fils unique, même la moins bien accueillie, l'opinion publique, qui, à St. Ogg's aussi bien qu'ailleurs, sait toujours ce qu'elle doit penser, aurait formulé son jugement d'après ces résultats. L'opinion publique, dans ces cas-là, est toujours un être du genre féminin. Elle n'est pas le monde, mais la femme du monde. Elle n'aurait vu dans tout cela que deux beaux jeunes gens, l'un appartenant à la première famille de St. Ogg's, qui, s'étant trouvé dans une fausse position, avait été entraîné à agir d'une manière que l'on pouvait tout au moins qualifier de très peu judicieuse, et qui avait causé du chagrin et du désappointement, surtout à cette douce et jeune créature, Miss Dean. On aurait critiqué la conduite de M. Stephen, tout en disant que les jeunes gens sont sujets à ces soudains attachements enthousiastes. On aurait blâmé Mme Stephen Guest d'avoir reçu les avances du prétendu de sa cousine, tandis qu'elle était positivement promise au jeune Wakeham. Le vieux Wakeham lui-même en avait parlé. Mais elle était si jeune, et puis un jeune homme difforme, voyez-vous, tandis que ce jeune Guest était si séduisant, et qu'il l'adorait. Et puis, ne l'avait-il pas emmenée dans le bateau tout à fait malgré elle? Et que pouvait-elle faire alors? Elle ne pouvait pas revenir. Personne ne lui aurait plus adressé la parole. Voyez comme cette robe, couleur de maïs, va bien à son teint. Il semble que les plis de devant se fassent naturellement, tant il dessine bien son beau buste. Plusieurs de ces robes sont faites ainsi. On dit qu'il ne trouve rien de trop beau pour le lui acheter. Pauvre Miss Dean! Elle fait bien pitié. Mais aussi, il n'y avait point d'engagement positif. L'air de la mer lui fera du bien. Après tout, si le jeune Guest ne l'aimait pas plus que cela, il est mieux qu'il ne l'ait pas épousée. Quel étonnant mariage pour une jeune fille comme Miss Tarleva. C'est tout à fait romanesque. Le jeune Guest se présentera pour le bourg aux prochaines élections. Rien de tel que le commerce de nos jours. Ce fils Wakeham a presque perdu l'esprit. Il a toujours été assez singulier, mais il est reparti pour ne pas causer d'embarras. C'était la meilleure chose que put faire ce jeune homme contrefait. Miss Unit déclare qu'elle ne se présentera jamais chez M. et Mme Stephen Guest. Quelle absurdité que de vouloir paraître meilleur que les autres. La société ne pourrait subsister si nous voulions nous enquérir de la conduite particulière des gens. Puis le christianisme nous dit de ne pas penser le mal. Et je croirais bien que Miss Unit n'a point reçu de lettre de faire part. Mais les résultats, comme nous le savons, n'étaient point de nature à faire accepter le passé. Maggie était revenue sans trousseau, sans mari, dans cette position dégradée et rejetée à laquelle on sait bien que conduit une faute. Et la femme du monde, avec cet instinct de bon goût qui lui est donné pour la conservation de la société, vit tout de suite que la conduite de Miss Tarleva avait été de l'espèce la plus condamnable. Pouvait-il y avoir quelque chose de plus affreux? Une jeune fille qui devait tant à ses amis, dont la mère, ainsi qu'elle, avait reçu tant de bonté des Dean, formait le dessein d'enlever l'affection d'un jeune homme à sa propre cousine, qui s'était conduite comme une sœur avec elle. Enlever cette affection! Ce n'était même pas la phrase à employer pour une fille comme Miss Tarleva. Il eût été plus correct de dire qu'elle s'était laissée diriger par sa seule hardiesse, indigne d'une femme, et par ses passions sans frein. Il y avait toujours eu à son sujet quelque chose de douteux. Cette liaison avec le jeune Wakeham, laquelle, disait-on, avait été entretenue pendant des années, avait très mauvaise apparence. Au fait, c'était dégoûtant. Mais qu'attendre d'une jeune fille aussi indisciplinée? Pour la femme du monde, Miss Tarleva possédait un physique qu'un instinct délicat sentait ne pouvoir annoncer que du mal. Quant au pauvre M. Stephen Guest, il méritait plutôt la pitié qu'autre chose. On ne juge pas très sévèrement, en semblable occasion, un jeune homme de 25 ans. Il avait été vraiment livré à la merci d'une fille hardie qui avait formé son plan. Et il était clair qu'il avait cédé en dépit de lui-même. Ne s'était-il pas débarrassé d'elle aussitôt qu'il l'avait pu? En vérité, une séparation aussi prompte avait quelque chose de très mortifiant pour elle. Il est vrai qu'il avait écrit une lettre, prenant tout le blâme sur lui et racontant l'histoire d'une manière romanesque pour essayer de la faire paraître innocente. Naturellement, c'était bien ce qu'il devait faire. Mais l'instinct raffiné de la femme du monde n'est pas si facile à tromper, heureusement. Autrement, que deviendrait la société? Puis son propre frère l'avait mise à la porte. Il fallait qu'il en eût bien appris, vous pouvez le croire, pour en venir là. Un jeune homme vraiment respectable que ce monsieur Tom Tarleva, et qui devait très probablement s'élever dans le monde. Le déshonneur de sa sœur était certes un rude coup pour lui. Il serait à désirer qu'elle quittât le voisinage, qu'elle passât en Amérique ou ailleurs, afin de purifier l'air de St. Ogg's de la souillure de sa présence, très dangereuse pour les mères qui avaient des filles. Rien de bon ne pouvait lui arriver. On ne pouvait que souhaiter qu'elle se repentît et que Dieu eût pitié d'elle. Mais il ne prend pas souci de la société, comme le fait la femme du monde. Ce ne fut qu'au bout de 15 jours que les scrupules délicats de la femme du monde se manifestèrent ouvertement. Il est vrai qu'il se passa toute une semaine avant l'arrivée de la lettre de Stephen, qui racontait les faits à son père, ajoutant qu'il passait en Hollande, qu'il avait tiré de l'argent sur leur agent à Madport, et qu'il était incapable pour le moment de prendre aucune résolution. Maggie, pendant tout ce temps, fut trop entièrement accablée par l'anxiété la plus navrante pour donner aucune attention à l'opinion émise sur sa conduite par le monde de St. Ogg's. Cette anxiété portée sur Stephen, Lucy, Philip, agitait son pauvre cœur d'une violente tempête envahissante et sans relâche, mélange d'amour, de remords et de pitié. Si elle avait redouté l'abandon et l'injustice des hommes, il lui aurait semblé que l'épreuve la plus dure était faite, qu'elle pourrait à peine trouver d'autres coups plus difficiles à supporter que les paroles qu'elle avait entendues sortir de la bouche de son frère. Au milieu de toutes ces angoisses pour l'homme aimé et pour les amis souffrants, ces paroles revenaient à coups répétés, comme une horrible sensation capable d'apporter le malheur et l'effroi même dans un ciel de délices. L'idée de retrouver une fois le bonheur ne se présenta jamais à son esprit un seul instant. Il lui semblait que chacune de ses fibres sensibles était trop entièrement ébranlée par la douleur pour jamais vibrer sous une autre influence. La vie s'étendait devant elle, ne lui offrant que la repentance perpétuelle, et tout ce qu'elle désirait le plus ardemment, quand elle arrêtait ses pensées sur son sort futur, était quelque chose qui pût la préserver de tomber plus bas. Sa frayeur à l'idée des actes auxquels pouvait l'entraîner sa propre faiblesse ne lui laissait concevoir aucune paix en dehors d'un refuge assuré. Mais elle ne renonçait point à ses intentions de vie pratique. L'amour de l'indépendance était pour elle un héritage et une habitude trop invétérée pour oublier qu'elle devait gagner son pain. Et quand d'autres projets paraissaient impossibles, elle revenait à celui de reprendre sa simple couture afin de parvenir à payer son logement chez Bob. Elle comptait engager sa mère à retourner bientôt au moulin auprès de Tom, et pensait que d'une manière ou d'une autre, elle pourvoirait à ses besoins par son travail à St. Ogg's. Le révérend Ken consentirait peut-être à l'aider et à lui donner des conseils. Elle se rappelait ses dernières paroles au bazar. Elle n'avait pas oublié le sentiment momentané d'un soutien qu'elle avait éprouvé pendant qu'il lui parlait, et elle attendait avec une vive impatience l'occasion de tout lui confier. Sa mère allait chaque jour chez M. Dean pour avoir des nouvelles de Lucy. La réponse était toujours triste. Rien n'avait encore pu la réveiller de cette torpeur qui l'avait accablée dès le premier choc. Mais Mme Tarleva n'avait rien appris de Philip. Naturellement, aucun de ceux qui la rencontraient ne lui parlait de ce qui intéressait sa fille. Mais enfin, elle rassembla tout son courage pour aller voir sa sœur Glegg, qui devait tout savoir, et qui était même allée rendre visite à Tom au moulin en l'absence de Mme Tarleva. Celle-ci ne savait rien de ce qui s'était passé dans cette occasion. Dès que sa mère fut partie, Maggie mit son chapeau. Elle avait résolu d'aller à la cure demander à voir le révérend Dr. Ken. il était dans un profond chagrin, mais le chagrin d'un autre ne repousse pas quand on est soi-même malheureux. C'était la première fois qu'elle sortait de la maison depuis son retour. Néanmoins, son esprit s'occupait si exclusivement du but de sa démarche que l'idée du désagrément de rencontrer quelqu'un sur sa route et d'être regardée ne s'offrit point à elle. Mais dès qu'elle eut quitté les rues étroites qu'elle devait traverser depuis le logement de Bob, elle s'aperçut des coups d'œil malveillants qu'on lui lançait, ce qui lui fit presser le pas par une agitation nerveuse, craignant de regarder à droite ou à gauche. Bientôt, cependant, elle se trouva en face de Madame et de Mademoiselle Turnbull, d'anciennes connaissances de sa famille. Elles jetèrent les yeux sur elle d'un air singulier et se détournèrent sans la saluer. Un regard froid avait de tout temps été un chagrin pour Maggie, mais elle se faisait trop de reproches à elle-même pour avoir du ressentiment. « Il n'est pas étonnant qu'elles ne veuillent pas me parler, » pensa-t-elle. « Elles aiment beaucoup Lucy. » Mais bientôt, elle vit qu'elle devait passer près d'un groupe de messieurs qui se tenait devant la porte de la salle de billard, et elle ne put éviter de voir le jeune Torrey s'avancer de quelques pas, son lorgnon à l'œil, et la saluer de cet air de nonchalance qu'il aurait eu pour une demoiselle de magasin de son intimité. La fierté innée de Maggie était trop vive pour ne pas sentir cette piqûre, même au milieu de son abattement. Et pour la première fois, elle comprit qu'un autre blâme serait jeté sur elle, outre celui que devait lui attirer son manque de foi vis-à-vis de Lucy. Mais elle arrivait enfin à la cure. Là, peut-être, elle trouverait autre chose que la punition. La punition peut venir de toute espèce de gens. Le gamin le plus grossier, le plus cruel, le plus ignoble du coin de la rue peut vous l'infliger. Certainement, le secours et la piété sont des choses rares. Il n'en est que plus nécessaire que les justes les accordent. Elle fut, aussitôt après avoir été annoncée, introduite dans la bibliothèque du révérend docteur. Elle le trouva assis au milieu de livres empilés, auxquels il faisait peu attention, appuyant sa joue contre la tête de son plus jeune enfant, une petite fille de 3 ans. L'enfant fut renvoyé, et quand la porte fut fermée, le docteur Ken dit en offrant une chaise à Maggie, « J'allais vous faire visite, Miss Taleva, vous m'avez prévenu, je suis content que vous l'ayez fait. » Maggie le regarda avec ce coup d'œil de franchise enfantine qu'il avait frappé au bazar, et répondit, « J'ai besoin de tout vous dire. » Mais ses yeux se remplirent rapidement de larmes, et toute l'agitation, contenue pendant sa course humiliante, se fit jour avant qu'elle pût parler. « Dites-moi tout, » dit le docteur Ken, de sa voix grave et ferme, et avec une calme bienveillance. « Considérez-moi comme une personne à laquelle il a été accordé une longue expérience qui peut la mettre à même de vous aider. » Maggie alors lui raconta en phrases entrecoupées, et avec quelque effort au commencement, mais ensuite avec une plus grande facilité, résultant du soulagement qu'elle éprouvait par cette confession, la courte histoire d'une lutte qui devait être suivie d'une longue affliction. Ce n'était que la veille que le révérend Ken avait été informé du contenu de la lettre de Stephen, et il y avait aussitôt ajouté foi, sans avoir besoin pour cela que Maggie lui confirmât la chose. Cette plainte involontaire qu'il l'avait entendue proférer, « Oh, il faut que je parte », lui était restée comme une preuve qu'elle était en proie à quelque lutte intérieure. Maggie s'arrêta plus longuement sur le sentiment qui l'avait fait revenir vers sa mère et son frère, ce sentiment qui la faisait se rattacher au passé. Quand elle eut terminé, le docteur Ken garda le silence pendant quelques minutes. Une difficulté se présentait à son esprit. Il se leva et fit quelques pas devant le foyer, les mains derrière le dos. Enfin, il se rassit et dit en regardant Maggie, « Votre désir de vous retirer vers vos amis les plus proches, de rester là où se sont formés tous les liens de votre vie, est une impulsion juste, à laquelle l'Église, dans sa constitution et sa discipline primitive, répond en ouvrant les bras au repentir, en veillant sur ses enfants jusqu'à la dernière extrémité, et en ne les abandonnant jamais tant que ce ne sont pas des réprouvés sans espérance. Et l'Église devrait représenter les sentiments de la communauté de manière que chaque paroisse fût une famille unie par la fraternité chrétienne sous la direction d'un père spirituel. Mais les idées de discipline et de fraternité chrétienne sont tout à fait relâchées. On peut à peine dire qu'elles existent encore dans l'esprit public. on ne les trouve que sous la forme partiale et contradictoire qu'elles ont prise dans les communautés étroites des schismatiques. Et si je n'étais pas soutenu par la persuasion inébranlable que l'Église doit un jour retrouver toute la force de cette constitution, qui est la seule appropriée aux besoins humains, je perdrais courage en voyant le manque de fraternité et de sentiment de responsabilité mutuelle qu'il y a au milieu de mon propre troupeau. Pour le moment, tout semble tendre au relâchement des liens, au choix fantasque substitué à l'acceptation du devoir imposé. Votre conscience et votre cœur vous ont éclairé d'une vraie lumière sur ce point, Miss Taleva. Et si je vous ai dit tout ceci, c'est afin que vous compreniez quel serait mon désir à votre sujet et les avis que je vous donnerais s'ils provenaient de mon propre sentiment et de ma propre opinion modifiée par des circonstances contradictoires. Le révérend Ken s'arrêta un moment. Il n'y avait aucune démonstration extérieure de bienveillance dans ses manières, mais plutôt quelque chose de froid dans la gravité de son regard et de sa voix. Si Maggie n'avait pas su que la bienveillance existait en lui malgré son apparence réservée, elle aurait pu être glacée d'effroi. Mais elle écoutait attentivement, parfaitement sûre qu'elle trouverait quelque secours positif dans ses paroles. Il continua « Votre inexpérience du monde, Miss Taleva, vous empêche de prévoir complètement les suppositions très injustes que l'on formera probablement à votre égard, suppositions qui auront un effet funeste, même malgré les preuves les plus évidentes qui devraient les détruire. » « Oh, je vois, je commence à voir, » dit Maggie, incapable de réprimer l'expression de sa récente souffrance. « Je sais que je serai insulté. On doit me croire pire que je ne suis. » « Vous ne savez peut-être pas encore, » dit le docteur Ken, avec un accent plus vif de pitié, « qu'il est arrivé une lettre qui devrait faire suffisamment comprendre à tous ceux qui se sont occupés de vous que vous avez choisi le sentier rude et escarpé du retour au bien, au moment où ce retour était ce qu'il y avait de plus difficile. « Oh, où est-il ? » dit la pauvre Maggie avec une rougeur et une appréhension qu'aucune présence n'aurait pu contraindre. « Il est en pays étranger. » Il a écrit à son père tout ce qui s'est passé. Il vous a justifié autant que possible. Et j'espère que la communication de cette lettre à votre cousine aura un effet bienfaisant sur elle. » Le docteur Ken attendit qu'elle fût calmée, avant de continuer. « Cette lettre, comme je l'ai dit, devrait suffire pour empêcher de fausses interprétations à votre égard. Mais je suis obligé de vous dire, Miss Taleva, que non seulement l'expérience de ma vie entière, mais mes observations pendant ces 3 derniers jours me font craindre qu'il ne se trouve à peine un seul témoignage qui puisse vous mettre à l'abri de ces fâcheuses imputations. Les personnes les plus incapables d'une lutte intérieure semblable à la vôtre sont précisément celles qui, probablement, vous fuiront, parce qu'elles ne croiront pas à cette lutte. Je crains que votre vie ici ne soit non seulement exposée à beaucoup de chagrins, mais entourée de beaucoup d'obstacles. Pour cette raison, et pour celle-là seulement, je vous prie de considérer s'il ne serait peut-être pas meilleur pour vous de prendre une place éloignée et de revenir ainsi à votre première intention. Je ferai aussitôt tout mon possible pour vous en procurer une. Oh, si je pouvais seulement rester ici, dit Maggie. Je n'ai pas le courage de recommencer une vie nouvelle. Je n'aurai point de domicile. Je me sentirais comme une errante et solitaire, privé d'un passé. J'ai écrit à la dame qui m'avait offert une place pour m'excuser. Si je restais ici, je pourrais peut-être me disculper en quelque manière auprès de Lucy, ou d'autres. Je pourrais le convaincre de mon désespoir. Et, ajouta-t-elle avec un éclair de son ancienne fierté, je ne veux pas partir parce qu'on dit de moi des choses fausses. Il faudra bien qu'on les rétracte. Si je dois partir plus tard, parce que d'autres pourraient le désirer, je le ferai, mais pas à présent. Eh bien, dit le révérend Ken, après quelques réflexions, si vous vous décidez à cela, Miss Taleva, vous pouvez compter sur toute l'influence que ma position peut me donner. Je suis engagé à vous aider et à vous protéger, par mes devoirs même de pasteur de la paroisse. J'ajouterai que, personnellement, je mets un profond intérêt à la paix de votre âme et à votre bien-être. La seule chose que je désire, c'est quelque occupation qui puisse me mettre en état de gagner ma vie et d'être indépendante. J'ai besoin de peu, en continuant à demeurer ici. Je réfléchirai mûrement à cela, dit le docteur Ken, et dans quelques jours, je pourrai mieux m'assurer de l'opinion générale. J'irai vous voir. Je penserai constamment à vous. Quand Maggie l'eut quitté, le révérend docteur resta debout à réfléchir, les mains derrière le dos et les yeux fixés sur le tapis, avec un pénible sentiment de doute et de difficulté. Le ton de la lettre de Stephen, qu'il avait lue, et les relations actuelles entre toutes les personnes intéressées, le forçaient puissamment à croire qu'après tout un mariage entre Stephen et Maggie serait ce qu'il y aurait de moins mauvais, car sans cela, l'impossibilité qu'ils demeurassent tous deux dans St. Ogg's avant plusieurs années créait une insurmontable difficulté au séjour que Maggie voulait continuer d'y faire. D'un autre côté, en homme qui a connu le combat de l'âme pendant les longues années d'un service dévoué aux douleurs de son prochain, il sympathisait avec l'état du cœur et de la conscience de Maggie, qui faisait qu'elle repoussait avec horreur l'idée de son mariage. Cette conscience ne devait point être ébranlée. Le principe d'après lequel elle avait agi était un guide plus sûr que toutes les considérations mondaines. Son expérience lui dit que l'intervention était une responsabilité trop épineuse pour s'en charger légèrement. Une démarche pour chercher à rétablir les anciennes relations de Maggie avec Lucy et Philip, ou l'approbation accordée à son amour pour Stephen, était d'autant plus à redouter que chaque alternative entraînait un mal après elle. Le grand problème de la relation intime qui existe entre la passion et le devoir n'est encore bien résolu pour aucun des hommes capables de s'en occuper. La question de savoir si un homme est arrivé au moment où la possibilité du renoncement efficace n'existe plus et où il peut accepter d'être dirigé par une passion contre laquelle il a lutté comme contre une transgression est un problème pour lequel nous n'avons point de clé qui puisse s'adapter à tous les cas. Les casuistes ont encouru des reproches mérités, mais leur esprit, perverti par de minutieuses distinctions, était le reflet d'une vérité à laquelle les yeux et les cœurs sont trop souvent fatalement fermés. Cette vérité est que les jugements moraux ne peuvent que rester faux et vides, à moins qu'ils ne soient dirigés et éclairés par la connaissance des circonstances particulières qui font les positions individuelles. Toutes les personnes douées d'un sens ferme et développé ont une répugnance instinctive pour les hommes à maxime, parce qu'elles comprennent bientôt que la complexité mystérieuse de notre vie ne peut être renfermée dans les maximes, et que vouloir nous enserrer dans de semblables formules, c'est réprimer tous les élans et les inspirations qui découlent du développement de notre esprit d'observation et de notre sympathie. L'homme à maxime est le représentant populaire des esprits qui ne sont guidés dans leur jugement moral que par des règles générales, et qui pensent qu'elles les conduiront à la justice par une méthode sûre et reconnue bonne, sans avoir la peine d'exercer leur patience, leur jugement, leur impartialité, et sans prendre le soin de s'assurer s'ils possèdent cette profondeur de vue, qui ne s'obtient que par un travail difficile pour arriver à mesurer la valeur de la tentation, ou par une vie assez active et assez remplie pour se pénétrer d'une large sympathie à l'égard de tout ce qui est humain.